voici dans notre deuxième partie du podcast de l'été d'Istasia. Nicolas nous a rejoint par rapport à la première partie. Salut Nicolas.
Bonjour.
Donc pour parler des films de l'été, et pour le coup on va un peu revenir en arrière sur le mois de juin, car deux films majeurs pour le cinéma asiatique sont sortis, et vous pouvez toujours aller les voir si vous vous dépêchez. Le premier, c'est Black Hole de Diao Yinan, un film noir chinois qui nous plonge dans les tréfonds d'une enquête sordide aux ramifications tentaculaires. Voilà. Le scénario est un peu obscur, mais néanmoins, le film a eu l'ours d'or à Merlin, ainsi que son interprète principal. C'est un des films, je pense, du mois. En tout cas, c'était le film de la semaine pour Istasia. On a rencontré Diao Yinan. Elvire, Nicolas, vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé, Nicolas?
Je trouve que le réalisateur a un certain talent de mise en scène qui est visible dès le départ. C'est-à-dire que c'est des plans magnifiquement composés. Toute la mise en scène est pensée pour instaurer une ambiance d'une froideur à faire frissonner un cadavre. Et c'est aussi un peu le problème du film, c'est-à-dire que c'est froid du début à la fin, et du coup, au bout d'un moment, avec le scénario qui se complexifie au fur et à mesure, on lâche un peu le cours, quoi.
Donc le film commence en fait en 99 par un cadavre qui est retrouvé dans une mine, découpé en plusieurs morceaux, et en fait on n'a que des bouts de cadavres. 4 ans plus tard, on retrouve l'enquêteur qui n'est plus flic, qui a sombré dans l'alcoolisme et qui continue à être fasciné, obsédé par cette enquête, et qui un peu par hasard va se remettre sur les rails. C'est vrai que le scénario est assez tentaculaire, justement assez complexe. Des fois on perd complètement le fil. Au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on ne sait plus du tout qui recherche quel assassin, pourquoi, comment ça se fait. Et ça, à mon sens, ça fait vraiment partie des codes du film noir que reprend le film. Comme dans les grands classiques du genre, dans Le Grand Sommeil, où finalement l'intrigue passe au second plan, et on est comme le personnage en fait perdu dans cette histoire dont on comprend plus grand chose. Et au final, ça me semble pas très 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 important, puisque c'est quand même principalement un film atmosphérique, un film de mise en scène, et un film dans lequel il y a des scènes qui marquent terriblement. Enfin, il y a des très longs plans séquences, un qui se passe dans une patinoire qui est assez impressionnant. Et cette scène, par exemple, même si les tenants et les aboutissants du scénario restent un peu nébuleux, fonctionne complètement. Et je pense que c'est ça qui est important et qui fait la réussite du film. Elvire, tu n'as pas l'air très, très convaincue.
Si, je trouve que les qualités... ce film a de nombreuses qualités, notamment sur la mise en scène et la photographie, c'est superbe. Mais le film a complètement perdu. Et la froideur de l'atmosphère, en fait, a fait en sorte que je me suis détachée des personnages au fur et à mesure, et à la fin, j'en avais strictement rien à faire de ce qui pouvait leur arriver, en fait. Donc, il y avait une sorte de distance qui s'est agrandie entre moi et le film, ce qui aurait dû être l'inverse. Normalement, j'aurais aimé, en tout cas, plus m'attacher aux personnages, et ça a pas marché. Mais parce que je pense que c'est trop froid pour moi.
Nicolas ?
Ah, ça reprend un peu une intrigue en fait à la Basic Instinct, pour faire une petite comparaison. C'est-à-dire que c'est un flic qui va s'attacher à la femme soi-disant du suspect, mais qui va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle est aussi un peu mouillée dans l'affaire. Et donc il y a une espèce de relation comme ça qui s'installe, qui ressemble de loin à Basic Instinct, sauf que c'est aussi un peu l'antithèse de Basic Instinct, puisqu'il n'y a pas du tout le côté chaud de Basic Instinct, c'est vraiment le contraire, c'est très très froid, et pas du tout le côté charnel, comme tu dis. Et c'est peut-être... je comprends... Enfin, j'ai entendu pas mal de réactions sur le film, et le film déstabilise beaucoup de personnes, quoi. C'est vraiment... c'est sa froideur qui déstabilise beaucoup de personnes. Après, y a des moments où le film a des séquences un peu absurdes qui sont vraiment géniales. Par exemple la scène chez le coiffeur au début où ils sont supposés arrêter les premiers suspects, ça part en live complet, et là le film sort un peu de ses rails de film noir pour aller vers quelque chose d'absurde, et c'est là où on voit aussi que le réalisateur a vraiment un certain talent de mise en scène, quoi.
On est presque chez Kitano,
voilà,
à ce
c'est
moment-là.
C'est presque ça. Ouais.
Donc c'est une des scènes aussi impressionnantes et marquantes du film qui est en salle depuis le 11 juin. Et donc il faut se dépêcher d'aller le voir si vous voulez le rattraper. Deuxième film qui est sorti en juin, le 25 juin, et qui devrait encore être en salle, c'est Le Conte de la Princesse Kaguya, le dernier film de Takahata, et la dernière production des studios Ghibli. Là, je crois également que Nicolas et Elvire, vous l'avez vu. Lors du précédent podcast à Cannes, on expliquait avec Julien et Pauline que c'était certainement notre coup de cœur et notre film préféré de Cannes. Est-ce que vous partagez notre enthousiasme ?
Pour moi, c'est même le meilleur film de l'année pour l'instant, donc c'est sûr, je partage votre enthousiasme.
Je suis d'accord.
Après, la critique de Nicolas Debarle est tellement complète que je n'ai pas grand-chose à rajouter, enfin du moins techniquement, parce que lui, il explique très très bien comment le dessin et l'animation ont été élaborés, et il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Mais c'est juste une merveille, quoi. C'est une merveille de poésie. On est transporté par l'histoire, on est transporté par le personnage féminin qui est l'un des plus beaux personnages féminins vus depuis très longtemps. Ça reprend un peu les codes du film d'animation japonais un peu ancestral en costume, avec la comparaison campagne, la vie à la campagne, la vie à la ville, la vie d'un paysan et la vie d'un noble. Et donc évidemment il y a plein de thèmes qui tournent autour de ça.
La vie d'Adèle aussi.
Pardon. C'était pas au même festival du Cannes.
Ok.
Désolé.
Et donc voilà pour résumer rapidement, c'est vraiment une merveille.
Et alors la vie d'Elvire, ça va être quoi ?
C'est exactement le même en fait. Parce que pour moi aussi c'est le meilleur film de l'année pour l'instant. Je l'ai trouvé vraiment superbe. Pourtant, j'y allais un peu à reculons en fait. Parce que j'avais trouvé le graphisme, les dessins très beaux, mais j'avais peur de me lasser au bout d'une heure et demie, deux heures. Et en fait non, ça fonctionne parfaitement, donc j'ai pas du tout vu le temps passer. Et voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter en fait, si ce n'est d'aller le voir.
Bon, j'espère qu'on vous a convaincu d'aller le voir. Le troisième film sort le 9 juillet, il s'agit du nouveau film de Hong Sang-soo qui s'appelle Or Sunny, ou juste Sunny en France, ça fait plus ensoleillé au mois d'été j'imagine. J'imagine que Elvire et Nicolas vous l'avez vu également, qu'en avez-vous pensé Nicolas ?
Alors moi ça fait déjà presque, ça fait longtemps que donc j'ai plus beaucoup de souvenirs, mais je me rappelle d'un film assez drôle, qui jouait énormément sur les répétitions de dialogues entre les personnages, c'est-à-dire que les personnages se transmettaient les dialogues, les répliques au fur et à mesure du film. Et donc c'était assez marrant parce que on voyait un personnage qui disait une réplique, une phrase comme ça un peu sentencieuse sur l'amour à un personnage, et puis dans la séquence d'après, tu voyais ce même personnage qui disait cette phrase à un autre personnage comme si c'était lui qui l'avait sorti. Donc il y a tout un jeu de répétition comme ça, de transmission entre les personnages qui est assez drôle. Après bon, c'est du Hong Sang-soo, quoi, ça varie pas, et en même temps c'est ce qui fait sa force, toujours une mise en scène au cordeau, quoi. Donc c'est un très bon cru pour moi.
Je dirais que c'est un très bon cru pour moi. C'est Hong Sang-soo, ça varie pas, et c'est ce qui fait sa force en même temps.
Mais ça m'étonne qu'on ait jamais eu l'idée d'un podcast Hong Sang-soo. Enfin, je sais pas.
Bon, non, on en a fait un.
Enfin. Ça le fait, voilà.
Ça fait.
Mais néanmoins, je pense que ça mériterait. Alors, peut-être dans quelques autres films, parce que je sais pas si on a de quoi effectivement renouveler forcément les thématiques avec, ouais. Avec les derniers, puisque ça date d'Avon et les Hommes en fait, le dernier podcast Hong Sang-soo.
Octobre, ouais.
Donc là, il a fait un film seulement depuis. Il, juste,
il y en a refait un là, après
Il y en a un qui est finalisé en Corée. Mais en même temps, peut-être que si on est plus nombreux, si on a plus de points de vue sur le cinéaste, ça peut être intéressant. Donc on verra peut-être je pense que pour l'année prochaine, un podcast Hong Sang-soo numéro 2 sera tout à fait le bienvenu.
Deuxième opus.
Il n'y avait pas deux personnes qui avaient vu Hong Sang-soo.
Le couple là aussi.
L'enfant avec ça.
C'est toi quoi.
Voilà. On enchaîne.
On enchaîne.
On enchaîne.
On arrive au gros blockbuster asiatique de l'été, les films que tout le monde attend et que tout le monde a vu avant sa sortie en salle. Je parle bien sûr de The Red 2 de Gareth Evans. Alors, inutile de résumer, je pense que c'est un film qui est basé principalement sur l'action et pas sur les méandres de son scénario. Nicolas, on sait que tu l'as vu et que tu as beaucoup aimé. Alex, on sait que tu l'as vu et que tu n'as pas beaucoup aimé. Donc je vous laisse tous les deux argumenter et défendre votre cas. Voilà, Nicolas.
Nicolas, en fait, commence. Hein.
On en a un peu parlé avant, mais en fait, on est assez d'accord. C'est-à-dire que le scénario, Gareth Evans a choisi d'avoir beaucoup plus d'ambition, que ce soit au niveau visuel d'ailleurs, au niveau scénaristique, sur le deuxième opus. D'ailleurs, c'est le film qu'il voulait faire avant de faire The Red. Donc... pour le coup, là, il a eu les moyens, un peu plus de moyens pour pouvoir enfin le faire, et il s'est un peu lâché. Donc, il a voulu faire son film de gangster. On va dire que ça a tous les codes du film de gangster, mais il est vrai que ça reste un scénario assez faible, que ce soit au niveau des personnages, de l'écriture, des dialogues, et que c'est pas du tout la principale qualité du film, évidemment. Mais, en revanche, le reste est tellement bon qu'on oublie rapidement le scénario et on prend son pied pendant 2h30. Voilà, à toi.
Alex,
ouais, mais en fait c'est très très bien résumé. C'est-à-dire que c'est un très bon film d'action. Je pense que quand même avec un budget assez ridicule pour nos productions françaises.
Un peu plus que le premier, mais ça reste, je crois, c'est 4 millions.
4 millions 5, je crois, un truc comme ça. Mais après, effectivement, comme tu l'as dit, au niveau des scénarios, c'est vraiment... ça manque clairement de scénario. C'est-à-dire qu'ils posent des personnages, tu sais pas trop pourquoi ils sont là... c'est pas qu'il y a tous les codes du film de gangster, c'est limite, il y a tous les codes, mais sans aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils y sont sans vraiment y être. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il a voulu rendre hommage à tous les films de gangster qu'il a vus dans sa vie, et il s'est dit, moi je dois avoir le patriarche qui dirige, mais le fils qui veut prendre sa place, etc., etc. T'as des personnages beaucoup plus forts que dans le premier, qui sont beaucoup plus nombreux aussi, les combattants entre guillemets principaux du film sont beaucoup plus nombreux que dans le premier opus. Donc ça marche très bien. Après, moi, c'est vrai que je regrette un petit peu le scénario qui est... qui n'est pas inexistant, mais en tout cas qui n'est pas aussi ambitieux que les combats, qui n'est pas à la hauteur des combats. Du coup, ça fait un certain déséquilibre. Alors, je vous conseille quand même d'aller voir le film, parce qu'au niveau des scènes de combat, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur film d'action que j'ai vu cette année, et même depuis longtemps. Ça surpasse The Raid, il y a des plans absolument fantastiques. L'acteur principal est vraiment très fort, et ils sont tous vraiment très doués. Après, c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus de trucs, un petit peu plus d'histoire des personnages, qui ferait que ça, c'est pas juste limite des scènes d'action qui s'enchaînent, qui sont encore une fois très réussies, mais on a l'impression que c'est juste ça, quoi.
Il aurait fallu, on sent que Gareth Evans n'est pas forcément très doué pour diriger ses acteurs hors scène de combat, quoi. Et il aurait fallu un vrai scénariste derrière qui apporte du punch dans les répliques, qui écrive ça beaucoup mieux, quoi, pour donner de la substance au personnage. Et c'est vrai que ça manque un peu de ça, effectivement. Après, comme tu le dis, les scènes de combat sont tellement exceptionnelles que, pour moi, le défaut, ça passe vraiment au second plan, quoi.
Est-ce que c'est juste un problème scénaristique ou également un problème de montage, hein?
Alors, il y a les deux, effectivement. Je trouve qu'au niveau du montage, alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est un montage, parce que le film dure quand même 2h40, donc généralement en 2h40 on a le temps de poser les choses, et là en fait t'as vraiment l'impression que le montage il a été fait comme les scènes d'action, c'est vraiment, c'est coupé, mais au cutter, quoi. D'un coup tu passes d'une scène à une autre où tu te demandes si tu t'es pas endormi.
Nicolas.
C'est parce qu'en fait, il change beaucoup de point de vue pendant le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément le point de vue drama, donc le héros, et il présente des nouveaux personnages comme si c'était des nouvelles séquences. Par exemple, on passe le nouveau personnage qui est joué par Yaran Runyan, qui est donc complètement différent du personnage forcément, parce que dans le précédent, on ne va pas trop spoiler, mais voilà, quoi. Et on voit que c'est un truc qui arrive comme ça dans le film, au milieu, pour présenter le personnage, parce qu'après, ça va apporter l'élément déclencheur à tout ce qui va suivre dans la deuxième partie du film, en fait.
Mais en fait, en ce sens, je suis d'accord avec toi, mais ça peut te faire penser, en fait, à du Tarantino, Sauf que Tarantino, en fait, mâche le travail en mettant acte 1, acte 2, machin, etc., etc. Et là, c'est vrai que du coup, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et effectivement, maintenant que tu me le dis, oui, ça doit sûrement être ça. Mais sur le moment, moi, j'ai été un peu frustré de me dire, mais qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Il y a un moment où...
Il passe d'une scène à une autre sans transition.
C'est ça. Je pense sincèrement que le plus grand défaut du film, c'est de pas avoir... Enfin, du réalisateur, en tout cas, c'est de pas avoir fait confiance à quelqu'un d'extérieur pour justement l'aider. Parce que on peut être un très bon réalisateur, on peut être un très bon... chorégraphe de scènes d'action, ce genre de choses, mais pas forcément, on peut pas être bon partout. Et là, c'est vrai que Gareth Evans a fait tout le travail, le scénario, les dialogues, la réalisation, et je crains que ça soit un peu trop le scénario, et malheureusement, enfin pour moi, alors effectivement c'est un film d'action, c'est pas vraiment ce qu'on recherche forcément, mais je trouve qu'en 2h40, c'est un peu dommage, quoi. Je pense sincèrement qu'avec l'aide de quelqu'un d'autre, ça aurait pu vraiment être un film beaucoup plus ambitieux. Ouais.
Ouais, très bien. Bon, en tout cas, on vous conseille dans tous les cas de nous faire votre avis donc, à partir du 23 juillet au cinéma. Et en plus, c'est vraiment à voir sur le grand écran, j'insiste là-dessus, pour les chorégraphies et aussi pour la mise en scène qui a quand même beaucoup de plans très larges. Ça vaut le coup, en tout cas, de le voir sur grand écran.
Notamment une scène de voiture,
de poursuite
dans la voiture. Alors après, moi, comme tout le monde, sûrement, j'ai vu le making-of de cette scène. Après l'avoir vu, en fait, donc, j'ai d'abord vu le making-of et ensuite la scène. Et c'est vrai que c'est quand même... Il y a un moment, si t'as pas vu le making-of, tu te dis, mais comment c'est possible, quoi ? Comment il a réussi à faire ça sur un espace si petit, voilà, qui roule. Enfin, c'est surtout ça le truc, c'est que la voiture roule et t'as quand même un espace réduit. Parce que autant le film commence sur une scène aussi assez réduite dans les toilettes de la prison, ce genre de choses. Mais là, tu te dis, putain, la voiture elle roule, les mecs ils sont, ça part dans tous les sens, de tous les côtés, puis, ont des flingues, ils se prennent des coups de tatane. Et c'est vraiment, au cinéma, c'est vraiment très efficace.
La caméra qui passe d'une voiture à une autre, d'un cadreur à un autre, alors qu'ils sont à moitié, ils sont rattachés aux voitures, c'est même les cadreurs, enfin les cascadeurs prennent des risques, mais les cadreurs, c'est pareil. Hein. Donc, on se demande comment il n'y a pas eu de blessés sur le tournage, quoi, parce que c'est assez impressionnant. Hein.
Je pense que c'est un film qui ne peut pas se faire, qui peut pas se faire en France. C'est le genre de film en fait qu'on peut pas se faire en France. Il y a tellement de risques.
C'est vraiment un film qui peut se faire
là-bas, quoi. C'est le truc, tu vois que les mecs, ils prennent vraiment, enfin même au niveau des cascades, ils prennent le temps et puis ils prennent des risques, quoi. C'est vraiment les gars, ils y vont, ils mettent leur trip pour le film.
La scène de combat final, c'était je sais plus combien de semaines de préparation et 10 jours de 12 heures de tournage pour la tournée, quoi. Juste la scène de combat final, c'est énorme pour une scène à Hollywood dont tu donnes un truc, ça juste 2 jours, 2, 3 jours, ça y est, on trouve la porte, quoi. Ils produisent même pas ton truc, donc. C'est énorme à ce niveau-là.
Petit flash forward sur les films d'août. Donc il y a deux films qui nous intéressent particulièrement que tu as vu, Nicolas. Heureusement que tu es arrivé après cette partie consacrée à l'animation. Il y a Détective Dee 2 de Tsuyark. Qu'en as-tu pensé ? Est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir sur grand écran ?
Eh ben, je n'avais pas forcément apprécié le premier et donc je n'ai pas forcément apprécié le deuxième puisque c'est presque la même chose. Voir exactement la même chose, c'est-à-dire que Tuark a découvert le numérique, Tuark a découvert la 3D à mon plus grand malheur, et il fait mumuse avec ses objets numériques et ses shurikens qu'il envoie à travers l'écran pendant près de 2 heures, avec des effets spéciaux qui sont pas forcément au top, et un scénario qui est vraiment pas terrible. Enfin, il y a toute une partie mythologique qui peut être intéressante, mais en lui-même, le scénario est bordélique au possible. La mythologie, au bout d'un moment, on en a un peu rien à foutre. Et je trouve que Tuark se perd un peu trop à essayer de faire, d'incorporer toute cette nouvelle technologie dans ses films, alors que ses anciens films étaient tellement meilleurs sans tous ces fonds verts et tous ces effets spéciaux.
Alex,
Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que je pense que c'est un peu la nouvelle plaie des blockbusters chinois.
On a vu avec le Roi Singe.
C'est ça en fait, tu te retrouves en fait, tu te dis, tiens ça y est, on a les moyens, on peut faire, on veut faire en tout cas, aussi bien que du Avatar, aussi bien que du Transformers, ce genre de choses, donc ils veulent vraiment montrer que eux aussi, ils peuvent faire des gros films. Parce qu'il faut quand même savoir que le cinéma chinois a de plus en plus d'importance financièrement parlant. Et donc, ils peuvent prendre des risques. Mais en fait, ils y vont qu'à moitié. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent faire des gros blockbusters et qui marchent. Hein. Tu as quand même des films qui rapportent plus de 100 millions de dollars au box-office. Donc, des films locaux qui rapportent plus de 100 millions de dollars au box-office en Chine. Mais le problème... C'est contrairement aux Américains, avec un film à très gros budget qui peut en rapporter 4 fois plus, en Chine, le Roi Singe, à part la Chine, dépassera jamais les 100 millions de dollars de recettes. Et là, tu as l'impression qu'ils veulent faire, mais ils mettent pas les moyens dessus. Parce que tu vois bien que c'est une question de moyens. Et dans ce film-là, dans le Roi Singe, on l'a vu aussi dans les nouvelles portes Dragon Gate. Et tu vois que, en fait... Ce qu'ils arrivaient très bien à faire en version mini, entre guillemets, avec des décors, ce genre de choses, là, en fait, ils essayent de reconstruire toute une cité impériale sur des millions de kilomètres, sauf qu'au final, c'est grand, donc forcément, c'est pas un vrai décor, donc c'est du numérique, et c'est dégueulasse à l'écran.
C'est
quoi.
Moche, c'est
et
super
quand,
moche.
Quand tu ressors d'un film d'une super production américaine, tu vois ça, t'as l'impression que t'es devant un téléfilm, quoi. Au niveau des effets spéciaux, après, pour le reste, c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau des effets spéciaux, t'as vraiment l'impression que t'es devant un épisode de Hercule, quoi.
Après, au niveau des effets spéciaux, il y a quand même une petite amélioration par rapport au précédent, quand même. Mais bon...
Par rapport à Dragon Gate ou
Par rapport aux deux, à DTV, même, parce que la scène de DTV, la fin, avec l'espèce de grosse statue, c'était assez moche. Là, il y a une séquence finale avec un combat. Alors, c'est un peu de n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils sont sur un grand bateau et il y a un gros monstre qui les attaque à façon Kraken dans Pirates des Caraïbes 2. C'est presque repris de ça, carrément. Et le mec est sur son cheval, sur le bateau, puis il monte sur le monstre avec son cheval et tout. Il saute, tout ça avec du numérique de partout, donc c'est assez what the fuck. Mais c'est un peu ça pendant tout le film. C'est-à-dire que c'est, ce que j'aimais beaucoup dans ces tuyaux, c'est que avant, quand il utilisait les câbles, mais il y avait une cohérence dans la chorégraphie, dans les mouvements des personnages par rapport à la gravité, tout ça. Là, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est le mec qui roule par terre et puis il continue à rouler en montant comme ça. C'est physiquement juste impossible. Il n'y a aucune cohérence dans les mouvements et au bout d'un moment, c'est barbant, quoi.
T'as l'impression en fait que maintenant c'est plus de la démo technique. Plus qu'un vrai film, c'est vraiment, en fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est histoire de dire, bah, nous aussi on peut avoir nos blockbusters. C'est un peu la fierté nationale, quoi, qui est en jeu. Tu veux dire, bah, nous aussi on est capable de faire des gros films de malades avec des effets spéciaux partout, sauf que ça pique tellement les yeux.
Bon, alors, on ne vous conseille pas forcément donc de Detective D2 de Suivre. Néanmoins, c'est quand même, ça peut être quand même intéressant d'aller le voir en salle et en 3D pour se faire piquer les yeux par un blockbuster chinois.
Bien marché
plutôt,
en salle,
plutôt que par Michael Bay pour l'été. Voilà, ça peut être une expérience intéressante. Le dernier film est également un blockbuster, mais c'est un blockbuster d'auteur, vu que c'est la dernière palme d'or du Festival de Cannes. C'est Winter Sleep, qui s'appelle Winter Sleep en français. Nouribille, je sais, Yann. Nicolas, je crois que tu l'as vu quand il avait été diffusé sur les reprises des films de Cannes à Paris. Mm-hmm. Qu'en as-tu pensé ?
Eh ben, j'avais beaucoup d'appréhension en allant le voir, parce que je me suis dit 3h16 dans un village... ça allait être un peu long, mais en fait j'ai trouvé le film assez passionnant parce que ce n'est que des dialogues pendant tout le film, en fait, que des dialogues entre les personnages, et pourtant c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement c'est vraiment passionnant sur ce que ça raconte dans ce village, donc où le personnage principal est un peu le grand propriétaire. Il a un hôtel en fait dans ce village, c'est lui qui attire les touristes, c'est un peu le grand propriétaire des lieux, qui loue toutes les maisons aux habitants. Et donc on va voir pendant les 3h16 tout son entourage un peu se craqueler, se décomposer, que ce soit sa femme, que ce soit sa sœur, tout son entourage. Cette descente un peu aux enfers est faite que par des discussions un peu métaphoriques, un peu y a plein de discussions passionnantes, c'est énorme, je peux pas trop résumer en 3h16 tout ce que ça raconte, mais et puis plastiquement il y a des plans, mais c'est juste les plus beaux plans que vous verrez cette année, quoi. C'est juste incroyable au niveau de la photo, des idées de mise en scène, du cadrage, de la composition, c'est du travail d'orfèvre, quoi.
C'est aussi prenant qu'un podcast Istasia, quoi.
Et on passe une image sur la manière de filmer les dialogues. Non mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'à la fois c'est un grand film de dialogue et c'est un grand film de mise en scène, c'est-à-dire qu'on peut suivre les dialogues qui disent des choses passionnantes sur la manière de vivre en prenant en plus des thématiques très abstraites, la religion, comment vivre avec la religion en Turquie aujourd'hui, et en même temps ça fait appel à des choses très intimes qui concernent les personnages et très concrètes. Donc ça, il y a un vrai dialogue de dialoguistes, et en même temps il y a une véritable mise en scène de ces dialogues, c'est-à-dire qu'on comprend absolument tout ce qui joue entre les personnages juste par les mouvements de caméra, par le positionnement des caméras qui joue sur les champs contre champs, en indiquant quel personnage a la supériorité, puisque ce sont des joutes oratoires et verbales en fait entre les personnages dans le cadre. Donc ce qui se passe dans les dialogues est passionnant, la manière dont ils sont filmés sont aussi intéressants et passionnants que les dialogues en eux-mêmes. Donc c'est vraiment un très grand film.
Les acteurs sont merveilleux. Enfin,
les acteurs sont magnifiques.
C'est impressionnant. Il y a la fameuse séquence centrale du film où le personnage principal s'engage avec sa sœur pendant 20 minutes sur quasiment un seul sujet, c'est-à-dire l'utilité de ce qu'ils font dans leur vie, entre guillemets. Lui, il écrit aussi entre-temps des lettres sur son ordi, dès qu'il a du temps libre, et elle passe son temps à lire, et donc ils s'engueulent un peu sur leur utilité au sein de leur communauté, ou même au sein de... enfin, dans leur vie, quoi. Et ça part en cacahuète, mais tout doucement, quoi, pendant 20 minutes, t'as le ton qui monte, et la façon de... Lui, il est sur son ordi, et elle est derrière, allongée sur un canapé, et le placement de caméra, c'est à chaque fois le changement de plan, le montage, c'est toujours un moment...
significatif.
Significatif dans le dialogue, quand il se retourne pour la regarder, puis qu'il se retourne vers son écran, et pendant tout le film, en fait, c'est vraiment des jeux de regard, des jeux de placement... les axes des personnages par rapport aux autres personnages, c'est vraiment passionnant à ce niveau-là.
Voilà, comme ça, ça peut avoir l'air un petit peu aride. Ça ne l'est pas du tout quand on regarde le film. Mais je pense qu'on est porté sur les 3h15. Je pense à Cannes. Si vous écoutez le précédent podcast, on était d'accord pour dire que c'était la Palme d'Or. Qui semblait tout à fait naturel, donc c'est logiquement que le film a été palmé cette année. Nous allons terminer ce podcast. Là, on est un peu sorti à moitié de l'Asie, on va dire, en parlant d'un film turc. On va complètement sortir de l'Asie en faisant un petit tour de table pour savoir quels sont vos conseils sur les films de l'été hors Asie et ou si vous avez une attente sur des films qui vont sortir en juillet et août. Sidi, je commence par toi.
Bah, moi, mon conseil, c'est Under the Skin, qui est sorti il y a une dizaine de jours. Le film,
un peu plus.
Ouais, quasiment 2 semaines. Ouais. Voilà, le troisième long-métrage de Jonathan Glazer, qui a été surtout révélé il y a 10 ans avec le film Birth. Un très beau film avec Nicole Kidman autour d'une veuve qui rencontrait un petit garçon qui disait être son mari. Enfin voilà, il y avait déjà cette question de la substitution d'identité, qui est un peu prolongée avec ce film-là. Je pense que c'est décidément son thème. Enfin, la substitution d'identité. C'est toujours un peu cette question de qui a-t-on vraiment face à soi. C'est un film qui est totalement structuré autour de la figure de Scarlett Johansson et de la projection que se font les hommes qu'elle va, d'une certaine manière... aguiché. C'est-à-dire que c'est un film théorique autour de la fascination qu'on peut avoir pour une femme, et en l'occurrence pour une star. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais c'est-à-dire que le désir de l'homme pour la jeune femme représentée par Scarlett Johansson est supposé correspondre au désir que peut avoir un spectateur pour une pure image, quoi, parce qu'elle ne restera que ça. Il n'y aura, enfin, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais voilà, quoi, l'esthétique du film est vraiment centrée autour de ce rapport de distance-proximité. Et voilà, Jonathan Glazer confirme qu'il est décidément, lui qui vient du clip, c'est décidément un très grand formaliste qui a voilà, quoi, une très grande intelligence dans l'utilisation de tout ce qui est interpénétration, de tout ce qui est voisinage des dimensions, des matières. C'est un film qu'on peut difficilement limiter à son scénario, si je peux dire, qui est vraiment minimaliste au possible, et qui ne tient vraiment qu'à la sensation qu'il produit. Mais je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir vu, donc je peux laisser d'autres personnes s'exprimer.
J'ai à peu près le même avis que toi sur ce film, si ce n'est que... À côté du côté fascinant, on va dire, je l'ai trouvé quand même un peu chiant. Mais tout en relevant les qualités du film, esthétiquement, au niveau de la mise en scène, même du jeu des acteurs, parce que Scarlett Johansson est assez particulière dans son jeu, dans ce film-là, mais ça colle au reste, ça colle à l'ambiance. Après, faut rentrer dedans, parce que si on rentre pas dedans... Au bout de 20 minutes, c'est fini.
C'est vrai que c'est un trip, quoi, dès le départ, les 5 premières minutes, déjà, qui pose vraiment dès l'ouverture. C'est vraiment très austère. Il y a un côté, il faut vraiment être happé par le spectacle. Mais il y a aussi d'autres points que j'ai appréciés au niveau des thèmes, c'est le rapport au corps, un peu, on va pas révéler... Ouais. Par rapport à Scarlett Johansson, mais le rapport un peu à son corps, à la sexualité aussi, il y a tout un questionnement là-dessus, ce qui définit un peu l'humain par rapport à son corps, à l'esprit et le corps, qui va être une problématique centrale du film plus tard, par rapport à ce qu'est Scarlett Johansson, sans trop en dire. Donc, c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là.
Sidi, y a-t-il un film que tu attends cet été et que tu n'as pas encore vu ?
Un film que j'attends sans être certaine, sans être sûr de l'apprécier, c'est Sils Maria d'Olivier Assayas. C'est un cinéaste très inégal qui a fait quelques films qui m'ont assez fasciné, surtout dans les années 90. Et voilà, quoi, je suis assez, enfin voilà, je ne serait-ce que par le casting un petit peu, voir voisiner Kirsten Stewart et Juliette Binoche. Enfin voilà, je pense que ça me décevra de toute manière un peu moins que le film de David Cronenberg, qui je crois tournait un petit peu autour du même sujet et qui pour moi était un ratage absolu. Donc voilà, je pense que c'est un film que j'irai voir. Je l'attends pas forcément, mais j'ai une petite curiosité, on va dire, autour de ce film.
Elvire, as-tu un conseil, une attente sur les sorties de l'été ?
Pas du tout, puisque l'été je ne vais pas au cinéma. Voilà.
Voilà.
Bon, t'iras voir The Red 2 et Detective D quand même. Et
The Red 2, pas Detective D.
Alex, conseil, attente de l'été.
Alors moi j'aime bien les films de l'été parce que c'est les films c'est les vacances, c'est la fête, tu réfléchis pas, c'est simple. Donc j'irai voir Les Gardiens de la Galaxie où j'aurai pas besoin de mon cerveau pour le voir. Et et voilà.
Je le raille parce que je l'avais. J'en ai un autre. Un autre sur lequel on ne va pas beaucoup réfléchir non plus. Mais néanmoins, dans cette perspective-là, je rappelle qu'il y a toujours Wintersleep qui sort sur l'été. Justin, attente ou conseil pour les films de l'été ?
Alors, plutôt conseil, parce qu'attente, j'ai pas d'attente particulière. Alors, peut-être en conseil... c'est déjà sorti en DVD il y a déjà plus d'un mois, mais c'était au mois de mai, donc le premier film de David Mitchell... C'est un teen movie, donc The Myth of the American Sleepover. Il y avait son deuxième film cette année à Cannes, It Follows,
hein, qui est une tuerie.
Apparemment, ouais. Où il y a des bons échos. Et donc, son premier film, c'est une espèce de teen movie c'est la raconte le dernier jour en fait d'été d'un groupe d'adolescents juste avant la rentrée. Et donc, c'est une espèce de teen movie en apesanteur où il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, c'est plein de petites histoires, mais sans vraie grosse trame. Narrative, donc raconter, c'est un peu, ça se base sur les espèces de quotidien adolescent, donc sur en fait tout est dans le thème déjà dans le titre du film, c'est une espèce d'ode à l'adolescence où ça raconte plein de petites histoires un peu anodines prises séparément, qui regroupé dans le cadre de l'histoire, forme un espèce d'idéal de la vision adolescente, que ce soit les premières amours, les premières bêtises, les premières émotions. Et donc c'est dans un espèce de... En plus visuellement, c'est un peu dans la continuité un peu de certains films des années 80, que ce soit du John Carpenter ou encore des productions Amblin de Spielberg. Mais tout ça avec un côté très flottant, sans agression, sans rapidité, une espèce de trip flottant comme ça, où c'est pas un thème fantastique, mais il y a une espèce de petite atmosphère qui est rétro, qui s'imprègne comme ça. Et c'est quand même assez prenant, c'est vraiment réussi. Ça rappelle aussi un peu, pour ceux qui connaissent, le film de Richard Linklater, Génération Rebelle, où il y avait aussi ce petit côté, pas d'histoire, pas de ligne directrice, mais un petit côté un peu qui se perd dans tous les sens, qui rend hommage à l'adolescence. Donc c'est une bonne découverte récente. Ouais. Sinon, il y avait Edge of Tomorrow, le dernier Doug Liman. Donc qui est vraiment une bonne... Vu que Doug Liman, c'est un réalisateur assez inégal, capable de faire de très bonnes choses, comme le premier Jason Bourne, et puis derrière, de faire des trucs assez anonymes.
Il a fait Jumper aussi.
Ouais, voilà, bonjour anonyme, par exemple. Voilà.
Et là, c'est... Bien aimé.
Ouais, c'est sympa.
Et là, c'est quand même assez réussi, adapté d'un roman japonais, d'ailleurs, donc on reste en Asie.
C'est vrai, on aurait pu en parler, ouais, de Edge of Tomorrow.
Et du coup, donc, c'est l'histoire, en fait, c'est une guerre entre les humains et des aliens qui envahissent la Terre. Donc c'est l'attaque finale, en fait, des humains... l'ultime bataille pour gagner cette guerre entre les humains et les aliens. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un journaliste, enfin, chargé de communication, qui est Tom Cruise, qui est chargé, qu'on envoie filmer un peu la guerre sur le terrain. Donc, il se défie, il essaie un peu de corrompre l'officier qui l'envoie sur le terrain. Donc, du coup, punition, il est envoyé comme un simple bidasse sur le terrain. Et il meurt au bout de 5 minutes. Il est assassiné au bout de 5 minutes, sauf que il va se remettre à revivre la même journée en boucle, sans qu'on sache trop pourquoi. Les indices vont se révéler au bout de plusieurs reprises de cette journée. Donc c'est une sorte d'un jour sans fin, mais rencontre Starship Troopers. Et la chose intéressante, c'est qu'il y a une espèce de... C'est une des meilleures incursions d'utilisation du jeu vidéo, en fait, de la narration façon jeu vidéo dans un film. Vu qu'on voit la progression de la manière dont s'améliore au fil des reprises Tom Cruise, qui devient vraiment un super bidasse, un espèce de super soldat au fil du film. Il y a même
mais on rejoint toujours le même niveau, en fait. C'est voilà. Ça qui est intéressant.
Et donc, et qui avance toujours un petit peu à chaque fois plus loin et meilleure connaissance du terrain au fil des reprises de la journée. Et donc, c'est assez intéressant. Et à la fin, sans trop en dire.
Pas,
il se retrouve dans la situation de... On va dire, c'est pour ceux qui ont des vies, qui aiment bien gagner des vies, reperdre des vies, donc il y a une espèce d'utilisation de ce type dans la trame, et même dans l'histoire d'amour, dans la manière dont le montage est excellent, dans la manière dont ça a amené la connaissance qu'on a, qu'a le personnage ou le spectateur des événements, on ne sait pas s'il a déjà vécu ce moment-là ou s'il le vit pour la première fois. Et c'est utilisé à des fins dramatiques aussi à travers l'histoire d'amour avec Emily Blunt. Donc c'est un montage assez brillant jusqu'au bout. Et c'est quand même assez captivant. C'est une bonne réussite des blockbusters cette année, je trouve.
Je suis tout à fait d'accord avec Edge of Tomorrow. D'ailleurs, le roman est également adapté en manga qui sort actuellement. Donc comme ça permet d'avoir la vision japonaise.
Qui est complètement différent. Hein.
De la même histoire.
Et il paraît qu'il va avoir une version animée aussi.
Tout à fait. Donc on aura l'occasion de revenir sur Edge of Tomorrow. Nicolas, très rapidement, je crois que toi tu as un top 3 de conseillers de films.
Pas forcément un top 3, mais un film qui est déjà sorti, donc c'était début mai, c'était The Rover de David Mitchell, donc le deuxième film de David Mitchell après Animal Kingdom.
On a entendu Justin dire c'était chiant. Hein.
Merci. J'avais pas trop apprécié son premier film, je trouvais que même s'il y avait pas mal d'idées intéressantes, il se perdait un peu trop dans ses personnages et son scénario, même si il était assez doué pour poser une ambiance. Et justement, je trouve que son deuxième film, il s'est simplifié la vie. Il a fait un scénario très, très en ligne droite, très sec, très brut, dans une Australie un peu post-apocalyptique, où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, c'est misère partout. Et on a un personnage d'anti-héros joué par Guy Pearce qui est absolument hallucinant. Et une sorte de sidekick joué par Robert Pattinson qui montre qu'il peut être très doué quand il joue dans des vrais rôles. Et voilà, j'ai été vraiment porté par le film. Je trouve que c'est la meilleure bande-son de l'année de très loin.
Alors c'est assez dommage parce que j'ai voulu le voir cette semaine et il ne joue plus.
Il ne joue plus du tout. Ah, c'est dommage. Bon, bah, le conseil qui sert à rien.
Et il sort sinon, à la rentrée en DVD.
Film qui sort, donc un film que j'ai vu mais qui sort le 20 août. Donc comme ça, c'est je fais les deux en même temps, moi. Et qui s'appelle Les Combattants. Donc c'est le premier film de Thomas Cayet qui a eu le premier prix, enfin le grand prix à la quinzaine des réalisateurs. Qui est un film français de très grande qualité. À la fois une comédie et un film d'aventure entre deux personnages assez magnifiques. Je ne vais pas trop en dire parce que le film réserve beaucoup de surprises, mais je vous le dis, donc ça va être Les Combattants. C'est fait par Thomas Cayet avec la très très grande actrice Adèle Haenel qu'on devrait voir beaucoup plus souvent dans les années à venir. Et ça sort le 20 août, voilà. Et sinon, bah, dans les blockbusters de l'été, ce que j'attends, c'est... même si j'étais pas super fan du premier,
Adieu au langage.
Hein?
Adieu au langage.
Non, ça c'est bon. c'est la suite de La Planète des Singes, donc l'affrontement qui apparemment a un gros succès critique aux États-Unis après les premiers échos et qui...
Ouais, il était très bien déjà.
Donc... Bah, moi, le 1, j'avais un problème. Enfin, je trouvais le scénario un peu débile à certains moments quand même. Mmh. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant au niveau du spectacle pur. Et là, je trouve que le deuxième a l'air vraiment, vraiment de mettre la barre beaucoup plus haut. Donc, j'attends avec impatience. Et un dernier film que j'ai envie de voir, c'est le film de Richard Linklater, Boyhood, qui sort en juillet, je crois, le 23 juillet, si je ne me trompe pas. Et qui a été donc réalisé sur 12 ans, à chaque période, à chaque été, je crois, de ces 12 dernières années, avec Ethan Hawke, Patricia Arquette et de jeunes acteurs que l'on voit évoluer pendant ces 12 années, tout le long du film. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Qui est à Berlin, je crois, qui a reçu un prix. Et voilà.
Et quant à moi, très rapidement, je vous conseille d'aller voir Les 4 heures de Chapiteau Chaud de Sergueï Vitalievitch Loban, qui est un film russe choral. Qui sort fort heureusement pour vous en deux parties, mais qui était déjà mon meilleur film de l'année dernière et qui sera certainement un des meilleurs films de cette année. J'en reparle dans l'édito qui est juste à côté, donc allez lire ce que j'en dis. Si vous voulez en savoir plus sur cette sortie qui est assez miraculeuse, donc ça sort début juillet au cinéma. Et comme conseil, comme je me suis fait piquer les Gardiens de la Galaxie par Alex, je vais conseiller 22 Jump Street de Phil Lord et Chris Miller, parce que déjà le premier était super cool, et ensuite les réalisateurs ont fait The Lego Movie cette année, qui est un des meilleurs films de l'année également, donc je pense que ça va être bien, bien sympa.
Ça va être
bien.
Avec Richard Gieco apparemment qui vient faire un petit passage.
Oui, après Johnny Depp, le premier aussi.
Oui, pour ça.
Ça va sortir de sa
cave. Il a que des bonnes critiques partout. Et d'ailleurs, un petit coup de gueule pour Sony qui l'a repoussé 2 mois, on sait toujours pas pourquoi.
Il devait sortir en juin, c'est vrai.
Il devait sortir en juin, il est sorti en Belgique en juin, il est sorti aux États-Unis en juin, il est sorti à peu près partout en juin, je crois qu'on est les derniers servis. Donc c'est le distributeur de Sony, hein, si vous entendez. Hein.
On vous donne rendez-vous à la rentrée, on vous souhaite un très bel été.
Bonnes vacances. Prenez soin de vous, salut.
See you, Space Cowboys.